Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire à dormir debout, mais bien réelle évidemment, les Polbèves. Au printemps 1929, la France traverse les années folles de l'entre-deux-guerres sur fond de crises politiques récurrentes, d'instabilité économique et de profond malaise social. Dans les rues de Paris, le combat pour la défense des idéaux laisse peu à peu sa place au populisme en tout genre. Tapis dans l'ombre, l'extrême droite tisse sa toile et agrandit sa sphère d'influence. À chaque occasion, les membres de l'Action française, mouvement politique nationaliste et royaliste et antisémite, saisissent l'opportunité du débat pour accentuer les tensions et mieux diviser la population. C'est dans ce contexte que plusieurs parlementaires républicains vont recevoir un bien étrange courrier. À l'intérieur, une courte lettre en caractère d'imprimerie signée à l'encre noire par deux hommes qui prétendent représenter le comité de défense Polbèves. Les auteurs de cette missive appellent à l'aide les députés français pour, disent-ils, réveiller les consciences et délivrer le peuple des Polbèves du martyr et du joug de l'intransigeance. Relayée dans la presse, l'affaire suscite une vive émotion. D'autant que plusieurs parlementaires de gauche et de droite prennent position publiquement en faveur de la démarche. Mais pourquoi ? Et que veut ce comité au nom étrange ? Derrière ce mystère, se terre l'Action française et toute cette mouvance qui, en faisant croire au pire, exerce ce qu'on appelle la stratégie de la tension ou de la peur, histoire peut-être, probablement, de créer un désir de reprise en main de pouvoir autoritaire et si possible d'extrême droite. Notre invité Philippe Di Folco, écrivain, scénariste et également professeur à l'USA Art et Culture, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il s'est intéressé dans trois d'entre eux aux grands imposteurs qui ont marqué l'histoire et justement à l'histoire du peuple Polbèves. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
Il y a eu un canular célèbre que les Normaliens avaient accepté pour eux-mêmes. C'était le canular. Les Polbèves. Vous avez entendu parler des Polbèves ? Eh bien voilà. Les Polbèves, c'est un canular assez typique, car ça comporte une invention et ça comporte l'invention d'une tribu tout entière. Voilà. Les Polbèves sont réinventés et jetés dans l'histoire.
Le canular n'est pas une blague. Du moins, pas seulement. Le canular n'est pas non plus une simple plaisanterie. C'est bien plus que cela. C'est bien pire que cela. Le canular sert toujours des intérêts, des enjeux parfois difficiles à percer, explique Pierre Boutan en 1997 au micro de France Culture. S'agit-il plutôt d'une sorte de parodie de la réalité ou d'une mystification ? À ces questions, il n'y a pas une, mais plusieurs réponses. Tant en effet ce procédé basé sur le mensonge reste difficile à saisir, à définir et donc à classer. Quoi qu'il en soit, le canular a toujours comme caractéristique la provocation, et s'il s'inscrit toujours dans son contexte, un moment particulier dans lequel un ou plusieurs individus, mal intentionnés ou non, tentent de faire croire quelque chose à d'autres, car l'environnement autour d'eux s'y prête et favorise leur démarche. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec le canular du peuple des Polbèves. Une histoire incroyable sur le fond et invraisemblable sur la forme. Une affaire rigoureusement vraie qui nous replonge à la fin des années 20 dans l'époque troublée de l'entre-deux-guerres. Paris vers 1929. Dans les kiosques à journaux du quartier latin, la presse du jour titre sur le climat de tension dans la capitale en vue de l'ouverture de la conférence des experts sur les réparations de guerre. À la une également, la dernière phase de l'évacuation des troupes alliées, stationnées en Rhénanie occupée, autre sujet qui suscite un intense débat chez les parlementaires. Cet extrait d'article en première page du quotidien Le Matin témoigne précisément de l'émotion qui règne alors dans l'Hexagone.
Fronde à l'Assemblée hier après-midi, alors que le ministre des Affaires étrangères, M. Aristide Briand, présenter les grandes lignes du calendrier qu'il compte offrir à l'Allemagne pour le paiement de ses réparations de guerre. Certains députés refuse le projet de report et d'étalement de la dette allemande à l'égard de la France. Une trentaine d'entre eux considèrent que l'engagement du ministre est à la fois antipatriotique et va même à l'encontre du devoir du gouvernement à servir les intérêts des Français. Le retrait des troupes françaises de Rhénanie ne peut et ne doit se faire qu'à la condition que la France obtienne ce dont l'Allemagne s'était intégralement engagée lors de la signature du traité de Versailles.
Un an après la signature du pacte Briand-Kellogg, ratifié par 63 pays et qui avait déclaré la guerre hors la loi, les conditions d'application de la paix sur le continent européen continuent de cristalliser les questions, la défiance et les critiques. Au Palais Bourbon, sur les bancs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, deux camps s'affrontent sur cette question. Bien loin du traditionnel clivage droite-gauche, on trouve d'un côté les pacifistes légalistes, favorables aux démarches entreprises par le ministre Aristide Briand pour apaiser les rapports avec l'Allemagne et restaurer une relation de proximité et de confiance avec elle. Et de l'autre, les frondeurs, ceux qu'on surnomme les revanchards bellicistes. Eux refusent tout compromis et reprochent même au président du Conseil, Raymond Poincaré, sa mollesse à faire appliquer la loi cinglante mais honnête de la défaite, comme ils disent, c'est-à-dire à l'Allemagne. Un échiquier politique fragmenté, des tensions idéologiques exacerbées, un gouvernement qui semble dépassé par l'ampleur des événements qu'il doit gérer, la situation fait bien sûr le jeu de l'extrême droite, et en particulier celui de l'Action française. Au début de l'année 1929, l'Action française, mouvement nationaliste et royaliste, symbolise l'une des franges les plus radicales et les plus populistes de l'échiquier politique. École de pensée, courant politique et mouvement intellectuel antisémite, apparu au moment de l'affaire Dreyfus, l'Action française est depuis plusieurs années sous l'influence de l'essayiste et homme politique Charles Maurras, qui prône le nationalisme intégral. Une doctrine qui doit aboutir au retour de la monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire. L'intellectuel incendiaire, théoricien de l'ennemi intérieur, le juif, comme d'autres, affirme aujourd'hui la même chose pour le musulman, estime aussi que la République est pervertie depuis ses débuts par ceux qui ont juré de la défendre. Maurras prône l'action violente, comme l'expliquera plus tard le fils de l'écrivain Georges Bernanos, membre de l'Action française à cette époque.
Pour Bernanos, militer pour l'Action française a consisté avec un certain nombre de ses camarades à former un espèce de petit corpuscule qui s'était intitulé « Les hommes de guerre » et qui déambulait dans le quartier latin, militant pour l'Action française. Il descendait le boulevard Saint-Michel, sortant les drapeaux à fleur de lys et semait la perturbation dans les conférences de l'opposition. Il y a eu notamment la fameuse affaire Talamas qui était professeur à la Sorbonne, qui s'était rendu coupable d'irrévérence vis-à-vis de Jeanne d'Arc. Alors les fameux hommes de guerre ont décidé qu'il fallait qu'ils soient punis et ils sont allés à un des cours de Talamas et l'histoire raconte qu'ils ont littéralement fessé en public le malheureux Talamas, hein, ce qui a valu d'ailleurs à Bernanos un séjour de 15 jours à la prison de la Santé.
L'une des particularités de l'Action française, c'est de cumuler tous les rôles d'opposition en un seul. Le mouvement maurassien est en effet à la fois anti-parlementariste, anti-républicain et furieusement antisémite. Pour faire entendre sa voix et promouvoir ses idées, l'Action française dispose d'un journal du même nom. Dirigé par Maurras en personne, le quotidien de l'Action française, c'est son titre, revendique une ligne éditoriale violente et radicale, dont la calomnie et l'acharnement sont les deux mamelles. Parmi la dizaine de journalistes qui démontrent un certain zèle à cette tâche, apôtre de la désinformation, il y a Alain Mellet. À 46 ans, scribouillard d'extrême droite, toujours prêt à déverser sa haine, il n'est pas particulièrement connu du grand public. Mais c'est un homme prêt à tout pour montrer à celui qu'il admire et respecte, Charles Maurras, qu'il mérite d'intégrer son premier cercle. Mellet a de l'ambition. Il réussit une certaine rancœur à l'encontre des parlementaires et il va profiter du contexte de division sur les questions de politique internationale pour imaginer un piège improbable afin d'humilier les députés et sénateurs de tous bords. « Dans l'esprit tortueux de ce petit bonhomme bedonnant, aux joues tombantes et aux idées toxiques, va germer une incroyable histoire. Celle d'un peuple imaginaire qui demanderait l'aide des parlementaires français pour échapper à l'esclavage. Au début de l'année 1929, le petit théâtre d'Alain Mellet prend forme. Reste à composer le casting, reste aussi à convaincre les élus républicains de s'engager au secours de ce malheureux peuple imaginaire. Moins d'un mois plus tard, le lundi 18 mars 1929, une vingtaine de députés reçoivent à leur bureau de l'Assemblée une enveloppe cachetée dans laquelle chacun d'entre eux découvre une lettre d'une page écrite en caractère d'imprimerie.
Honoré monsieur le député, c'est un cri à votre pitié et à votre justice que nous faisons entendre en vous suppliant de laisser toute votre attention sur les choses qui suivent. En plein siècle de lumière et de droit, près de 100 000 infortunés poldèves, esclaves modernes, halètent sous le joug de quelques dizaines de grands propriétaires terriens. Femmes, vieillards, enfants, parce que les hommes travaillent dans d'autres pays, mènent une vie misérable de bêtes. Aucun secours pour eux si leur délivrance ne vient pas de la conscience mondiale que nous venons chercher dans votre cœur. Dans ce commencement du XXe siècle qui a vu éclater grandiosement le triomphe de la paix perpétuelle et de la fraternité à toujours, il faut effacer les dernières taches immondes. La France de 1793, qui avec son glaive flamboyant a piétiné les tyrans et les rois, peut nous arracher entre les griffes des grands propriétaires affamés de sang poldève. Oh, merci, honoré monsieur le député, pour votre réponse qui ira à Genève avec celle des autres collègues du Parlement de la Grande France de la Révolution. Pour le comité de défense poldève, l'inexistant Toff, l'ami d'Alf.
Les deux auteurs de courrier, deux individus inconnus jusqu'ici du grand public, prétendent répondre au nom effectivement de l'inexistant Toff et l'ami d'Alf. Deux patronymes qui fleurent bon l'Europe de l'Est. Une intuition confirmée dans l'un des paragraphes de leur missive, dans lequel les deux auteurs affirment que leur peuple a trop souffert par la faute de l'Ukraine et que les poldèves ne sont en rien les amis des républiques soviétiques. La Poldévie donc, dont personne ici à Paris ne connaissait l'existence, serait manifestement une petite république ou un petit territoire enclavé entre la Pologne, l'Ukraine, la Tchécoslovaquie, voire frontalière des régions des Balkans. Malgré une bibliothèque conséquente et malgré le voisinage entre le Palais Bourbon et le ministère des Affaires étrangères, aucun député ne prend le temps de consulter un atlas ou même tout simplement de se renseigner sur l'existence ou la localisation de ce pays inconnu. Ça paraît fou, et c'est pourtant vrai. Et sans quoi d'ailleurs, il n'y aurait pas eu d'affaire poldève. Nous la devons donc à la paresse et à la crédulité des gouvernants de l'époque. Mieux encore, dans ce contexte diplomatique tendu sur la question des réparations de guerre, plusieurs députés de droite et de gauche, tous membres du courant des pacifistes légalistes, vont s'engouffrer dans la brèche offerte par cette lettre et se faire les porte-voix de la cause du peuple poldève. Sans l'ombre d'un doute, cette lettre est pour eux une incroyable opportunité pour défendre une cause qui sert leur engagement politique en faveur de la paix, quitte à utiliser à des fins uniquement politiques le drame des poldèves. Premier parmi les parlementaires à répondre au courrier, Pierre Casals, député de l'Ariège. Petite particularité et non des moindres, l'agrégé de lettres, ancien président du Parti radical, est aussi et surtout un ami personnel et même un confident du président Raymond Poincaré. Alors il se mobilise et mobilise autour de lui des intellectuels et des journalistes pour faire connaître, je cite, « le calvaire du peuple des poldèves » et diffuser l'information dans la presse. En sa qualité de questeur de la Chambre, c'est sur papier en tête de l'Assemblée nationale que Casals répond aux deux expéditeurs.
Messieurs l'inexistant Toff et l'ami d'AF, sachez que toutes les iniquités trouvent en moi un adversaire résolu. À plus forte raison, l'oppression et la violence. Sentiment sympathique à l'égard du peuple poldève. Votre ami et soutien, Casals, député de l'Ariège au nom de la République française.
Dans la foulée, quatre autres députés prennent position pour affirmer leur soutien qu'ils prétendent déjà sans faille et sans alternative à la lutte du peuple poldève. Parmi eux, on trouve le vice-président de la commission de l'armée à l'Assemblée, le député du Rhône, Armand Chouffet. Dans la lettre qu'il fait dicter à sa secrétaire, il s'indigne, cœur sur la main, en ces termes. « Je suis, en ce qui me concerne, et dans les limites de mes possibilités, à votre entière disposition pour vous aider dans votre tâche. Rien, en effet, n'est plus beau que le dévouement de ceux qui s'attachent à délivrer leurs frères de la servitude. » Dans un autre bureau, non loin de là, le député Charles Boutet écrit que son cœur saigne à l'idée de savoir le peuple des Poldèves traverser un péril profond. Dans les couloirs et à la cantine de l'Assemblée nationale, en l'espace de quelques heures, la Poldavie se retrouve au cœur de plusieurs conversations très animées. Certains députés imaginent même d'en faire le cheval de bataille de la France lors de la prochaine conférence de la Société des Nations à Genève. D'autres envisagent la création d'un groupe de soutien aux Poldèves, et il est même question d'organiser la visite d'une délégation française là-bas, dans ce pays qui souffre tant. Ensuite, rien. Oui, vu les commodesses de l'affaire dans la presse, vu également le manque d'intérêt de l'opinion publique pour cette affaire, bon nombre de députés vont abandonner le cheval de bataille des Poldèves aussi rapidement qu'ils l'avaient enfourché. Certains s'en retournent gérer leurs affaires courantes, d'autres dans leur circonscription, et certains partent en vacances. La Poldévie peut attendre.
Honoré monsieur le député, 15 jours déjà, nous avions cru permis de frapper à votre conscience pour protestation contre les infamies dont souffre la nation Poldève. De grâce, nous traînons vos pieds à notre malheur. Nous ne demandons pas le plus petit secours en argent. Mais vite, envoyez-nous la protestation pour notre dossier pour la troisième sous-commission de la Commission du droit des minorités de la Société des Nations. Il faut tarir l'écoulement du sang Poldève. Merci. Merci pour le comité l'Inexistantov et la MIDAEF.
Jeudi 4 avril 1929. Deux semaines après son premier courrier, le comité de défense des Poldèves fait de nouveau parler de lui par une nouvelle lettre. Cette fois, elle est envoyée à plus d'une centaine de parlementaires. Pour justifier leur recours auprès de la France, les deux auteurs affirment cette fois que les liens entre le peuple Poldève et le peuple français sont bien plus profonds que beaucoup ne veulent le croire. Deux siècles plus tôt, en effet, le philosophe Voltaire aurait entretenu une correspondance soutenue avec l'une des principales figures du royaume Poldève. De ces échanges auraient pu émerger certains des grands principes qui vont éclairer le siècle des Lumières, affirment les deux auteurs. Notre culture, notre histoire, notre révolution auraient donc quelque chose à voir avec les Poldèves. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors, une trentaine de députés montent au créneau et se saisissent du sort de la question des Poldèves. Parmi eux, Raymond Ferrin, qui demande solennellement que son nom soit inscrit au registre des protestataires contre les violences et les tortures qui sont infligées aux enfants de la nation Poldève. Outré et affligé par l'absence de réaction à l'échelle du continent, le député de l'Eure, Raymond Forcinal, lui, va même jusqu'à demander que les insignes du peuple Poldève soient accrochés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Monsieur, la conscience humaine se révolte au récit des mauvais traitements auxquels sont soumis actuellement vos frères, les malheureux Poldèves. Votre cri d'alarme ne peut laisser indifférent un membre du Parlement français, ancien combattant de la Grande Guerre, descendant de ces glorieux ancêtres de la Révolution qui ont proclamé à la face du monde les droits imprescriptibles de l'homme et du citoyen. Veuillez croire, monsieur, à mes sentiments de profonde commisération pour vos infortunés compatriotes. Forcinal, député de l'Eure.
Dans les jours qui suivent, dans les premières pages du quotidien Le Matin, on peut lire les déclarations exacerbées de plusieurs députés concernant le martyr du peuple Poldève. D'autres publications reprennent à leur tour l'information, mais encore une fois, l'opinion n'accroche pas à l'histoire. Et pour cause, en dehors des députés français, on ne trouve nulle trace du témoignage de véritables Poldèves ou de représentants officiels de la Poldévie. Dans la foulée, l'un des assistants du parlementaire, Raymond Forcinal, qu'on vient d'entendre, se permet d'écrire au secrétariat de Poldévie en France, dont l'adresse figure en bas du second courrier. Le jeune homme cherche des informations sur la population, les persécutions dont les Poldèves se prétendent victimes, et surtout, ils cherchent à connaître leur localisation exacte sur une carte. Enfin, si cet assistant se permet une telle démarche, c'est qu'il a reçu de la part du service géographique de l'armée, l'ancêtre de l'Institut géographique national, une fin de non-recevoir à sa demande. L'institution affirme en effet ne disposer d'aucune information, quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la nature, au sujet du territoire de la Polynésie. Une semaine plus tard, le jeune assistant parlementaire reçoit une réponse du secrétariat Poldev à Paris. Le courrier a été expédié depuis le bureau de poste de la rue du Louvre. Une information qui semble, sur le moment, anodine, mais qui va par la suite se révéler déterminante. Dans cette courte lettre, tapée à la machine, le secrétaire général de Paul Lévy en France affirme que les archives de son peuple ont malheureusement été détruites par la guerre. Il explique ensuite que durant le Moyen-Âge, la Paul Lévy a été la cible de conquêtes de toutes parts. Charles Quint aurait même voulu se l'accaparer. Et que c'est grâce à l'intervention de la France, qui aurait envoyé sur place le colonel général Mélé, que son pays a réussi à obtenir son indépendance peu après la Révolution française. Sur la base de ces nouvelles informations, et sans même prendre le temps une nouvelle fois d'en vérifier l'authenticité, le député de l'heure, Raymond Forcinal, parmi les plus ardents défenseurs de la cause Poldev dans l'hémicycle, demande à ce que leurs émissaires du comité de défense à Paris soient reçus par le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et par le groupe de la Ligue des droits de l'homme. Mais les Poldev ne donneront jamais suite à une éventuelle invitation.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Qu'est-ce qu'un bon canular ? Et d'ailleurs, est-ce qu'un bon canular est une mauvaise plaisanterie ? Ou comment une mauvaise plaisanterie peut-elle être un bon canular ?
Il faut que ça trompe quelqu'un. Il faut, dans le canular, du vrai semblable. Il faut que ce soit, par un certain biais, je ne sais plus lequel, semblable à la vérité. Que ça puisse passer pour. Hein ? Passer pour, ça veut dire que ça passe. Ça veut dire qu'on réussit à le faire passer, que ça ne sera pas considéré. Quel est le mot qui s'oppose à ce point de vue-là, à canular ? Tel que c'est pas simple. Le canular ne sera jamais seulement ça. Retrouver le mot, vous l'avez sur le bout de la langue. Et c'est évidemment le mot d'imposture. Imposture. C'est imponere. C'est imposer. à quelqu'un. Lui flanquer à la figure quelque chose qui, s'il avait un peu de bon sens, il ne devrait pas accepter une minute. Alors le canular n'est pas une simple imposture. L'imposture ne suffit pas.
C'est ainsi qu'en 1997, au micro de France Culture, le philosophe Pierre Boutan décrit les mécanismes d'un bon canular. Et il explique, il ajoute en tout cas... D'une manière générale, le bon canular est celui qui finit par être découvert et qui provoque avec lui un mélange de stupeur, d'incompréhension et la plupart du temps d'indignation. Eh bien, c'est précisément ce qui va se passer au mois d'avril 1929, lorsque les parlementaires et l'opinion publique vont découvrir par voie de presse que l'histoire du peuple des Poldèves n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Le 16 avril 1929, donc, dans les kiosques à journaux de la capitale, on s'arrache le dernier numéro de l'Action française. Pensez donc, la une est une bombe. En première page, on découvre comment l'un de ces journalistes, un homme du nom d'Alain Mellet, a réussi à piéger le milieu des parlementaires avec une histoire totalement inventée. Le sauvetage du peuple des Poldèves, bien sûr. En ciblant des représentants à la Chambre, Mellet affirme avoir voulu, et là je le cite... Encore une fois, montrer l'ignorance et surtout la légèreté de certains représentants du peuple et soutenir ainsi la monarchie antiparlementaire. Les références et les jeux de mots utilisés par le journaliste d'extrême droite confirment le caractère prémédité de l'affaire, tout comme le lieu d'expédition de la lettre-réponse du secrétariat du peuple Poldève au bureau de poste rue du Louvre, c'est-à-dire non loin du siège du quotidien de l'Action française. Le nom du premier des deux auteurs des courriers, c'est Linessie Stantoff, et là encore, cela ne doit rien au hasard. Ce nom était en réalité un jeu de mots inventé par Mellet qui pouvait se lire comme l'inexistant officier. Idem pour son complice fictif, l'Amidaïef, qui signifiait, lui, dans l'esprit enfiévré de Mellet, l'Amidaïef, autrement dit, l'ami de Action française. Toujours dans le courrier-réponse, Mellet s'était lui-même mis en scène, s'octroyant le rôle du haut gradé envoyé par la France pour sauver le peuple des Poldèves. L'ensemble des références mobilisées par l'imposteur pour ridiculiser les députés traduit clairement sa proximité avec l'idéologie réactionnaire de l'Action française. Parce que dans la presse, le canular donne l'occasion aux commentateurs politiques de railler la crédulité des députés pris au piège. Dans le journal des débats, le romancier René Labruyère va même jusqu'à affirmer qu'il y a chez les députés d'extrême-gauche une proportion, en tout cas une propension, et les deux, de simples ou d'ignorants supérieurs à la moyenne.
À propos de la mystification des Poldèves, nous avions expliqué que son malicieux auteur s'était de préférence adressé aux députés d'extrême-gauche, à ceux qui avaient voté contre au scrutin sur les congrégations missionnaires. Et nous avions constaté que sa psychologie l'avait bien servi. Il avait trouvé dans ce milieu, comme on pouvait s'en douter, une proportion de simples ou d'ignorants supérieure à la moyenne. Mais non, objecte notre confrère. Il en aurait trouvé tout autant dans les autres partis, peut-être davantage. Si les organisateurs de cette galéjade ne se sont pas adressés à leurs amis de droite, c'est qu'ils connaissent trop bien leurs bêtises.
Oui, mais enfin, fallait-il cette expérience pour que nous fussions portés à croire dans le manque de regard critique de nos parlementaires, écrit le journaliste Ludovic Nadeau, dans une tribune reprise dans plusieurs quotidiens de la presse française. Nadeau qui poursuit. Je désire tirer de cette aventure une morale à laquelle ceux qui, en inventant la Poldévie et en bernant ainsi certains de nos législateurs, ne s'attendaient sans doute pas. Je prétends affirmer, en connaissance de cause, que, en quelque sorte, chaque nation est toujours une espèce de Poldévie pour ceux qui jugent de loin ses revendications patriotiques. En vérité, Alain Mellet n'est pas l'inventeur du peuple Poldève. Non, il s'est simplement et très librement inspiré de ce procédé du canular déjà monté par le journaliste Paul Biro en 1913. À cette époque, le plumitif mal intentionné avait fait croire à des députés à l'existence d'un prétendu artiste du nom d'Egésippe Simon. Et il l'avait fait, disait-il, pour montrer à quel point les députés sont incapables d'étudier, même superficiellement, une question quelconque, et qu'ils sont dotés d'une vanité qui ne leur permet pas de soupçonner qu'on puisse se moquer d'eux. Et Gésip Simon, le personnage totalement fictif que Biro avait mis en scène dans ses articles, avait pour vocation de recueillir de la part des députés des dons et des lettres de soutien afin de célébrer le centenaire de cet artiste précurseur et injustement oublié qu'était le grand Gésip, avant que Biro ne révèle le subterfuge dans une du journal pour lequel il travaillait. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, mais le déclenchement de la Grande Guerre l'avait fait très vite oublier. Si le but affiché par Mélé avec son canular était sans aucun doute de ridiculiser cette république que ses pourfendeurs appellent la gueuse à l'époque, certains historiens affirmeront par la suite que l'action du journaliste répondait aussi et sans doute à d'autres considérations beaucoup moins politiques et beaucoup plus pragmatiques. Il se trouve qu'à l'orée des années 30, le quotidien de l'Action française, tout comme le mouvement politique éponyme, connaît une crise économique sévère. L'une des hypothèses qui a longtemps circulé soutenait que le premier cercle des Maurrassiens recherchait par tous les moyens, c'est le cas de le dire, à réaliser un grand coup afin de faire augmenter son tirage et retrouver des lecteurs et donc des recettes. Comme il l'a déjà démontré, comme il le démontrera par la suite, le quotidien de l'Action française est toujours prêt à se lancer dans tous les coups bas et les opérations les plus scabreuses pour salir l'image des responsables politiques ou pour détruire la réputation des responsables républicains. C'est en partie à cause des articles diffamants et faux de ce journal que Roger Salin Gros, ministre de l'Intérieur, se suicidera en 1936, ne supportant plus les calomnies et la diffamation sur son passé d'ancien soldat. Mais revenons au cas des Poldev, car le plus étonnant dans cette affaire du canular, c'est qu'elle va avoir, et ce malgré elle, plusieurs prolongements étonnants. Le mot de Poldevy sera repris et décliné dans divers documents de l'extrême droite. On va aussi retrouver des occurrences au peuple des Poldev dans des œuvres littéraires et artistiques très éloignées du registre politique. C'est le cas par exemple dans Les Aventures de Tintin et l'album du Lotus Bleu en 1936, où Hergé incorpore dans son univers un homme barbu qui se prétend être le consul de Poldevy. On le retrouvera également sous la plume de l'ancien ministre vichiste Marcel Déa en 1939, lorsqu'il écrit que les paysans français n'ont aucune envie de mourir pour les Poldev. Par la suite, on retrouve une évocation du canular des Poldev dans le roman de Raymond Queneau, « Pierrot mon ami ». L'écrivain Marcel Aimé se fendra même d'une nouvelle intitulée, lui, « Légende Poldev ». Mais la plus surprenante résurrection est née sous la plume de Boris Vian. Dans sa stratégie en alexandrin et en argot intitulée « Sériblème », la tragédie, pas la stratégie, il imagine les survivants d'un crash aérien par des casques bleus, Poldev, mais oui. Quant au souvenir du canular que nous avons raconté, il a couvert de honte des dizaines de parlementaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart d'entre eux avaient quitté l'arène politique, et c'est sans doute ce qui explique qu'on ait progressivement oublié cette histoire. Il faut sauver les Poldev, une histoire presque drôle sur la forme, mais préoccupante sur le fond. Tant elle nous rappelle à quel point l'information est un pilier de la démocratie qui passe par la lutte aujourd'hui contre les fake news afin d'endiguer les détournements de la vérité, afin d'éviter, comme écrivait Joseph Kessel, de voir notre monde sombrer petit à petit dans les abîmes de l'obscurantisme et de l'aberration.
L'air slave, j'ai l'air slave. Je suis né à Ville d'Avray, mes parents étaient bien français. Ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor, mais je m'appelle Igor. Mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt Moscovite. Il est explicite quand on m'imagine ronfler un barine qui s'apprête à boire à son samovar. l'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave, j'ai l'âme slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de rue sans moi, c'est le prénom, mais ça me suffit bien. D'entendre tous les gens me prendre pour plus authentique, j'en ai tous les tics. Je vis de Zalzurski, je mange du pirouchki, je bois de la vodka au milieu des repas. L'âme slave, j'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les filles de la maison, je viens faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slave.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Paul Dev, histoire d'un canular très politique, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Di Folco. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Merci d'être avec nous, écrivain, scénariste, également professeur à l'IS Var et Culture. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous vous êtes intéressé dans trois d'entre eux aux grands imposteurs et aux grandes impostures qui ont marqué l'histoire et justement à celle du peuple. Paul Dev, comment l'avez-vous découvert cette histoire? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment connue. Hein.
Non, elle est pas très connue, mais je l'ai découvert grâce à un ami écrivain qui n'est plus, qui me manque, qui est Dominique Noguez, qui est un maître de l'humour noir, et qui m'avait d'abord dit de m'intéresser à l'affaire Égisip Simon, qui est très drôle.
Oui, dont on a parlé. Hein.
Et Paul Biro, c'était un grand ami d'Apollinaire. Apollinaire venait le voir dans son imprimerie, donc c'était pas un mauvais gars, finalement, enfin, très à droite quand même. Et je pense qu'Alain Mellet, et vous l'avez dit d'ailleurs très justement, s'est inspiré de cette affaire, et Alain Mellet lui-même cite Égisip Simon dans un écrit qu'il a publié, et quand j'ai tapé une occurrence, à l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas encore Internet, donc je suis allé à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, et on découvre par ricochet, comme ça, des affaires. Puis j'aime bien cette affaire parce qu'elle est littéraire, quand même, il y a beaucoup de textes.
Oui.
Il y a de la recherche.
Absolument. Comment expliquez-vous que cette histoire n'apparaît jamais dans les livres, les manuels d'histoire? Est-ce que la République et sa mémoire ont volontairement oublié cette affaire? Parce que vraiment, pour l'image de cette République parlementaire, et qui était parlementaire comme vraiment une raison de vivre, hein, c'était totalement parlementaire, est-ce que cette République-là veut effacer ce mauvais souvenir pour sauver sa réputation?
Moi, c'est un peu la honte quand même, parce que
l'affaire
Biro, l'affaire Paul Dev, ça fait deux fois. Moi, ce qui me fait, j'ai pas trouvé de réponse là-dessus, mais à mon avis, les parlementaires avaient des assistants comme aujourd'hui. Ils ont dû valser, ils ont dû être quand même sanctionnés. Voilà. Ce qui est évident, c'est que à mon avis, l'affaire a été oubliée parce qu'elle dure un mois.
Hein, montre en main. Oui, c'est vrai que c'est court. Déjà.
C'est court. N'oubliez pas qu'on est à la veille du krach de 29, qu'en octobre-novembre, les actions s'effondrent. On aura un nouveau sujet.
Grosse actu, c'est beaucoup plus dire.
Et effectivement, mais je comprends aussi le. Alors, on parlait de l'Action française, 50 000 lecteurs maximum, qui a besoin de faire sa pub. À côté, on a des journaux par ricochet qui tirent à 300 000, 1 million, 2 millions.
Et qui reprennent.
Et qui reprennent l'affaire. Ben oui. Voilà. Et pas souvent en bons termes, mais par exemple le groupe du Petit Journal, qui est très à droite, le reprend en des termes qui se moquent vraiment des parlementaires. Donc c'était bien l'effet recherché quand même.
Mais quand même, la question reste valide. Comment ont-ils pu se faire avoir? Parce que ça paraît complètement fou, on parle d'un pays... tiens, mais il est où ce pays? Déjà, tiens, il est où? On regarde une carte. Alors, il n'y a pas Internet à l'époque.
Non,
il n'y a pas Google, il n'y a pas Wikipédia, mais il y a des cartes, il y a des livres.
Alors, L'une des réponses possibles, c'est par l'homophonie. Connaissez-vous, Fabrice, la Padanie ?
Oui.
Ah bon ?
Oui, non, je connais la Padanie, figurez-vous.
Ah, mais vous êtes super cultivé aussi.
Alors, je connais la Padanie et j'essaie de retrouver le lien parce que je vous jure que je connais. Je l'ai juste oublié. Voilà, mettez-moi sur la voie, comme une devinette.
C'est un petit peu dans l'ancien empire austro-hongrois, vous voyez toutes ces régions autour.
D'accord.
Je sais pas exactement où c'est, moi aussi, hein, je vous avoue. Mais la Poméranie. Ça, c'est plus. Les Poméranie, c'est à cheval sur l'ancien empire allemand et la Pologne actuelle.
On connaît les loulous de Poméranie.
La Moldavie. Alors, la Moldavie.
Chisinau, capitale, voilà, hein, voilà, d'accord.
Vous voyez tous ces noms. Bon, ben voilà. Donc, ça a dû peut-être par homophonie.
Oui, hein, c'est ça. On s'est dit si la Moldavie existe, ben celle-là, elle existe.
Oui,
bien,
puis alors, autre explication, c'est qu'en 19, avec les accords de Versailles en 1920 et la théorie wilsonienne, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, effectivement, tout peuple peut réclamer un territoire. Ça, c'est une nouvelle, c'est dans l'air. La SDN a effectivement un comité au service, la Société des Nations, un service des minorités. Mais aujourd'hui aussi, les combats existent pour les Kurdes, pour des tas de peuples qu'on ne connaît pas forcément. Moi, j'ai découvert ce peuple birman, par exemple, que j'ignorais. Les Ouïghours aussi, on en parle, voilà, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu, on pourrait aussi comme ça convoquer le Parlement français au secours de peuples oubliés. Sauf que les parlementaires français aujourd'hui, dans un régime très présidentiel, ont une armée d'assistants. Qui sont bien payés d'ailleurs, pour travailler.
Puisque vous me parlez de République, que nous dit cette histoire de ce que fut la Troisième République, la plus longue à ce jour ? Alors le record peut être assez vite battu par la Cinquième, hein, mais pour l'instant c'est la plus longue.
Oui, c'est la plus longue.
Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit de cette République-là ?
Bah, elle est mal fichue, enfin je veux dire, regardez les cartels de gauche, c'est
1924, Edouard Herriot.
Enfin, c'est la proportionnelle au premier tour.
Intégrale.
Voilà, et puis regardez février 34, on a frôlé la guerre civile quand même.
Violente, hein, bien sûr.
L'élection du Front Populaire s'est faite de tout juste, d'ailleurs, on a frôlé la catastrophe, c'est-à-dire qu'il y avait une montée du fascisme dès les années 20, donc en Italie, le coup d'état de 25 en Allemagne, triomphe d'Hitler en octobre 32, franquisme, pourquoi on y a échappé ? On aurait pu tomber dedans, hein, vous savez.
Donc vous vous rendez compte à quel point elle traverse les plus grands soubresauts, les plus grands heurts, les plus grandes ruptures de guerrières dramatiques de l'histoire du XXe siècle, cette Troisième République Et elle tient.
Elle tient, oui. Mais elle est traumatisée, je comprends, parce que c'est celle de nos grands-parents. Enfin, moi j'ai la génération de cette maison, donc je suis né en 64. Mes grands-parents étaient traumatisés, par exemple, par le franc, l'effondrement du franc en 1918. Et en 1928, avec le franc Poincaré, on se retrouve à un cinquième du mark allemand. Vous croyez que c'est moral ? C'est pas très moral, je veux dire. Les Allemands nous ont fichu dans la guerre et on se retrouve avec un franc qui vaut un cinquième de marque. C'est une réalité économique, c'est dur à digérer pour les gens.
Enfin, cette Troisième République, elle a quand même battu les empires, quoi. La première
absolument,
guerre, hein.
Absolument.
Au nom de la République.
Oui.
Au nom aussi de l'idéal républicain.
Bien sûr.
C'est pas rien.
On
se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweet Survivor. Well, you just think that I'm some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else. Some people ought to see, some people ought to vous entendez cette belle résonance musicale nous va aller dans la résonance historique, parce que cette histoire d'aujourd'hui nous dit aussi des choses, l'histoire d'hier nous dit aussi des choses d'aujourd'hui. Mais avant, il faut quand même parler de Maurras, l'incendiaire, adepte d'une monarchie héréditaire, donc le contraire de l'égalité des chances, le contraire de la République. Antisémite, qui est un délire républicain. Antiprotestant, antimaçonnique, xénophobe, bon, il a tout, quoi. C'était une influence fondamentale, hein, rappelons-le quand même. Au moment où les idées d'extrême droite ont la cote, si je puis dire, sont même à la mode à l'époque et sont incarnées autour de la France, chez les voisins, par des gens qui ont beaucoup d'influence, comme Mussolini et plus tard Hitler.
Je suis pas un expert de Charles Maurras, mais je me souviens qu'il est un moment exclu de tout le courant qui va prendre le pouvoir en France au moment de Vichy. Il est exclu parce que simplement il est profondément anti-allemand.
Oui, il y a ça aussi.
Alors voilà, et c'est amusant, vous avez passé, ça m'a fait plaisir d'entendre Pierre Boutin, parce que j'avais lu l'Ontologie du secret, qui est un ouvrage assez remarquable. Et bon, je pense aussi à Pierre-André Boutin, bien sûr, son fils, mais
il était anti-allemand parce qu'il était d'abord nationaliste.
Il était anti-allemand, voilà.
Parce qu'il était d'abord nationaliste.
Profondément. Alors, voilà. Bon, en plus, il meurt en pleine guerre. Mais oui, c'est une minorité très active, les royalistes, mais ça se dégrade profondément entre les deux guerres. Ils sont beaucoup plus puissants avant l'affaire Dreyfus. Ils croient encore rétablir le trône de Henri V, etc. Je ne sais plus à quel numéro on en est. Aujourd'hui, on est à Louis XIX. Mais bon, voilà, ça fait un peu rire les gens, les royalistes, les camelots, tout ça. À propos des camelots...
Enfin, ça fait rire, n'empêche qu'après, il y a des attentats. Il y a l'appel à la haine, les manifestations qui tournent mal, ils sont là-dedans quand même. Je suis pas sûr qu'ils fassent
rire. À l'époque, oui.
Ouais. Oui, mais qu'ils fassent rire beaucoup de monde.
Mais comme vous dites, aujourd'hui, les royalistes, bon.
Ah bah oui, aujourd'hui, bien sûr.
Bon,
bien
je pense à Stéphane Bern commentant les mariages princiers avec sa bonne bouille. Ben voilà, c'est tout. D'ailleurs, Alain Mellet est un peu un sous Stéphane Bern raté. Il est spécialisé dans les mariages princiers, Alain Mellet.
Ah tiens, d'accord.
Et oui, et il faut rappeler quand même, je sais pas si vous l'avez dit, Fabrice, mais il a fait de la prison, figurez-vous, en 1911, 6 mois de tôle. Pour avoir participé avec un camelot à une action qui nous rappellera un fait récent, gifler Aristide Briand.
Voilà. Ah, d'accord.
Voilà,
d'accord.
Vous voyez.
Bon, bah oui, on voit. Alors, puisque nous sommes dans les résonances, il y a quand même cette filiation historique du fake news, complotisme proche de l'extrême droite. Et on a l'impression que ça recommence. Que cette sphère, parfois la fachosphère, donne peut-être plus que les autres dans le complotisme et dans les fake news. Et c'est ça aussi, hein, c'est un fake news au départ, ce qu'on raconte.
À l'époque, ils n'ont pas nos moyens actuels.
Bien sûr.
C'est ce qui se passe aujourd'hui est d'autant plus inquiétant. Et moi, je pense que ça provoque une sorte de panique morale, en fait. On parle de post-vérité, d'un dispositif agrégeant des faits invérifiables, mais c'est totalement faux. On peut totalement vérifier ce qui est dit, soit de façon orale à l'antenne, soit de façon écrite encore plus dans des journaux peu
douteux. C'est bien le premier rôle des journalistes aujourd'hui.
Voilà. Mais aujourd'hui...
Pas que d'ailleurs.
Voilà, mais il y a un problème de rhétorique, tout simplement, de sophistique. C'est-à-dire que vous êtes face à un type de mauvaise foi, et vous argumenter en disant mais vous vous trompez, vous avez tort et je veux vous le prouver, et vous dire mais non, vous avez tort, tout ce que vous dites est faux, etc. Et on est dans un processus où qu'est-ce que vous voulez que je dise,
c'est difficile d'en sortir parce que la construction est souvent habile.
Oui,
le problème, c'est que la construction du mensonge ressemble à une vérité. Et c'est là qu'elle est dangereuse. Alors, est-ce que, parce que dans votre livre sur les grands imposteurs, vous avez découvert d'autres affaires.
Oui, beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait dire que, quelles sont celles qui s'apparentent à celles-là? Alors, vous avez cité l'affaire du...
Égide Simon.
Voilà, j'ai du mal à mémoriser son nom.
Égide Simon, précurseur, hein, c'est son titre.
Bien.
J'adore.
On a pré...
Précurseur de rien.
Précurseur de rien.
C'est fabuleux.
Précurseur du néant. Oui. On a 45 secondes, là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Alors, figurez-vous qu'il n'y a rien, sauf une bonne blague de copains australiens qui ont édité il y a quelques années un guide de la Molvanie.
La Molvanie.
Qui est un état complètement inventé,
ça, c'est pas
évidemment,
mal.
faisant écho à la Moldavie. Mais dans les états oubliés, je rêve de visiter, je vous le dis en passant, la Transnistrie, qui existe vraiment.
Et oui, c'est vers la Roumanie, ça, ou
oui,
pas?
C'est ça. Mais vous voyez, encore un état mystérieux.
Ah, oui.
Il faut sauver la Transnistrie.
Transnistrie. Oui, d'ailleurs, il y a des provinces qu'on ne connaissait pas. Avant le charnier de Timisoara, on ne connaissait pas la Valachie, par exemple.
Valachie, oui.
Voilà. Et alors, on peut confondre avec un état qui n'existe pas.
Absolument.
Merci infiniment, Philippe Di Folco.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'est C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Polders. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Juliette Proutot, Vincent Lebrun, Adrien Cara et Romain Weber. Attaché de production, Rémi Cap de Nantes. Programmation musicale, Muriel Pérez et Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Hélène Visio et Stéphane Combe. Et dans quelques minutes, vous retrouverez Antoine Decaune, bien sûr, non pas pour Pop Pop Pop, oh, ça y ressemble, mais c'est parce que vendredi, nous sommes vendredi, Pod Pod Podcast.
Fabrice, dans un instant, troisième numéro de Pop Pop Podcast, la rencontre, comme vous le savez désormais, entre Pop 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 et l'univers des podcasts. C'est tous les vendredis du crime aujourd'hui, Fabrice, autrement dit, l'une de vos marottes. Je me comprends.
C'est déjà ça. À tout de suite.